L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Chloé Moufoued, qui est stagiaire au Centre Documentation Tiers-Monde. Un stage d'abord qu'elle va bientôt terminer. Alors, Chloé, vous êtes étudiante à l'Université Paul Valéry. Vous êtes en stage de Master 2 Études culturelles, Parcours culture en mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ces études-là ?
Ben, tout d'abord, bonjour aux auditeurs et auditrices de Radio FM+, et je remercie la radio pour cette invitation. Bonjour Madeleine, et donc du coup je m'appelle Chloé Moufoued et je suis étudiante en master études culturelles en deuxième année. Ce master en fait il consiste à analyser les cultures qui sont considérées comme non légitimes selon le canon culturel traditionnel. Dans le cadre de la deuxième année, j'ai basculé vers le parcours culture en mouvement. Donc il y a tout dans le nom du parcours. Cette deuxième année, on apprend et on analyse comment les cultures s'entremêlent, se mélangent, échangent. Voilà.
Oui, les échanges qu'il peut y avoir interculturels.
Voilà, aussi. Exactement. C'est exactement ça.
Alors, qu'est-ce que ça a donné comme recherche ? Est-ce que vous avez découvert des choses ?
Ben oui, ce master, il m'a permis de vraiment, plus me documenter et être plus curieuse envers certaines pratiques culturelles ou pratiques sociales.
Lesquelles, par exemple ?
Par exemple, dans mon master, j'ai pu analyser un peu la danse orientale, entre guillemets. À travers des recherches, j'ai plutôt penché vers les théories qui disent que c'est une invention en fait, française et que la danse orientale, à proprement parler, comme on la voit sur les plateaux télé, etc., n'existe pas, en tout cas, dans le Maghreb. Et j'ai pu aussi faire des travaux sur un auteur palestinien, un poète, Mahmoud Darwish, sur d'autres films, etc. Donc ça, c'est pour donner deux exemples.
Oui, je sais qu'à Montpellier, il y a des groupes de danse orientale. Est-ce que vous avez pris contact ?
Non, du coup, je n'ai pas pu prendre contact, mais ça aurait été intéressant. C'était un petit dossier, du coup, ça ne nécessitait pas de, on va dire, développer. Mais ce n'est pas la danse orientale en soi, c'est la manière dont elle est, on va dire, présentée par l'hégémonie culturelle. En fait, elle vient plutôt de l'Égypte, Mashrek, plutôt que Maghreb. Alors qu'en fait, il y a des amalgames qui sont faites au niveau de...
De la présentation.
De la présentation qui est faite,
oui,
en fait.
En Europe.
Voilà, en Europe.
Et vous êtes originaire de quel...
Moi, je suis franco-algérienne, du coup.
Ah, voilà. Oui, donc ça vous intéressait aussi.
Oui, ça m'a intéressée, à titre personnel. Et puis vraiment, c'est ce que j'apprécie, c'est... En fait, même les cultures qui sont un peu considérées comme populaires, c'est de les analyser comme des cultures qui sont dignes de ce nom, en fait, et voir à peu près, dedans, comment on peut interroger l'idéologie, l'hégémonie culturelle, les appropriations, les réceptions, etc.
Alors, vous avez fait un mémoire là-dessus ?
Mon mémoire, il traite de la pensée décoloniale et des mouvements et des médias en ligne qui sont sur une ligne éditoriale décoloniale. Et du coup, j'ai un peu analysé la mouvance décoloniale en France et je me suis plus penchée sur du coup, la réception qui est faite de ces médias en ligne, le public en fait, comment ils s'approprient les articles, les contenus qui sont publiés par ces médias indépendants et alternatifs. Et voilà, du coup, je suis sur...
Ça intéresse beaucoup les gens de la radio, ça, de savoir comment c'est interprété. Et est-ce que c'est possible vraiment de savoir, justement, par rapport à un sujet, un thème donné, combien il y a de personnes qui peuvent suivre
Après, à titre quantitatif, oui, de mesurer le nombre de personnes qui suivent, mais après, au niveau qualitatif, de voir comment ces personnes suivent, c'est totalement différent. Parce que suivre un média, c'est pas forcément adhérer à 100%, en tout cas aujourd'hui, sur les médias en ligne. C'est pas, par exemple, comme il y avait, il y a quelques décennies encore, dans la presse, avec des lecteurs très fidèles et très attachés à la ligne éditoriale, pour un journal en particulier. Ah oui. Là, vraiment, avec les médias en ligne, c'est très diffus, en fait. On peut suivre un média sans forcément y adhérer, juste pour tomber comme ça sur quelques publications, parce qu'on a apprécié une fois un article, mais sans vraiment suivre de manière, on va dire, passionnée ou très intéressée. C'est même parfois
superficiel.
C'est même parfois, oui, très superficiel et distant. Après, c'est pas pour généraliser, mais c'est ce qu'on peut retrouver chez certains, chez une partie du public. Et c'est pour ça qu'il y a des publics, il n'y en a pas un en particulier.
Ah oui, en effet. Alors, cette soutenance-là, elle est faite ou bien c'est à faire
Non, c'est en cours, du coup, pour début juillet.
Alors, comment avez-vous choisi le stage que vous deviez faire?
Alors, du coup, voilà, j'ai un stage obligatoire dans la deuxième année de master. Et alors, en fait, je connais certains membres de la CCIPPP, qui est la campagne civile internationale pour la protection du peuple palestinien, CCIPPP 34, qui est membre en fait de la maison des
tiers-mondes et de la solidarité internationale.
Exactement. Et du coup, je leur avais demandé conseil s'ils pouvaient me rediriger, enfin me faire découvrir un nouveau lieu à Montpellier où je pourrais faire mon stage et qui se prête au master dans lequel je suis. On m'a redirigé vers le CDTM.
Alors vous avez rencontré bien sûr une personne de l'équipe qui s'occupe des stagiaires, qui s'appelle Daniel Elda,
oui.
Et qui a retenu votre candidature.
Oui, d'ailleurs je la remercie beaucoup pour avoir passé ce moment, le premier entretien, avoir appris à me découvrir mes centres d'intérêt et avoir pu m'orienter dans le stage vers des activités ou des missions qui me plairaient et puis qui serait aussi, on va dire...
Qui correspondrait...
Voilà, qui me correspondrait, voilà.
À votre vie militante.
Oui, fait. Aussi.
Aussi. Alors, vous avez apporté de la musique, de quoi s'agit-il?
Alors, du coup, la première musique que j'ai choisie, c'est une musique de Mohamed Assaf. Donc, c'est un chanteur palestinien qui est assez populaire. Et le titre, c'est Jannah Ya Watana. Et je l'ai choisi parce qu'en fait, il y a eu des événements dernièrement en Palestine. On va dire une agression militaire israélienne. Et du coup, il y a eu des mouvements, à chaque fois, des mouvements de résistance de la part du peuple palestinien. Et je suis tombée sur une vidéo où, en fait, il y avait une énorme manifestation et tout le monde chantait cette chanson. Et j'ai trouvé ça hyper envoûtant, prenant. Enfin, ça m'a vraiment pris aux tripes. Et du coup, c'est pour ça que je propose cette musique.
Yeah.
Voilà, nous entendons de la musique palestinienne et je suis avec Chloé Moufoued qui est stagiaire au Centre Documentation Tiers-Monde, qui finit son stage d'ailleurs. Elle vient de nous expliquer ce qu'elle a fait comme étude et pourquoi ça l'intéressait d'aller au Centre Documentation Tiers-Monde. Alors, arrivé au Centre Documentation Tiers-Monde, il a fallu choisir un thème de travail. Et vous avez été orienté sur la mise à jour du dossier Palestine, la paix par le droit.
Voilà.
Alors, c'est un dossier qui avait été déjà réalisé en 2020 et qui avait été mis sur le site de Ritimo, le réseau dont fait partie le Centre Documentation Tiers-Monde. Et il fallait bien sûr compléter, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis 2020 pour la Palestine.
Oui, du coup, voilà, en fait, après ma première semaine de découverte du Centre de Documentation, on m'a orientée vers la mise à jour de ce dossier, parce que du coup, vu de mes centres d'intérêt, ça m'intéressait aussi de pouvoir plus me plonger dans la question palestinienne. Et du coup, dans ce dossier, j'ai dû mettre à jour la chronologie, la carte et les repères, la bibliographie et aussi un petit paragraphe dans l'introduction pour, on va dire, alimenter le dossier. Et oui, c'est passé plein de choses et on va dire une des difficultés, ça a été de trier et de miser sur les événements majeurs qui se sont passés, parce que sinon il y aurait énormément à dire sur la question palestinienne.
Une des choses qui s'est passée très importante, c'est la reconnaissance de la situation d'apartheid par certains organismes.
Oui, oui, d'ailleurs, dans la chronologie, j'ai pu mettre à jour cela, que du coup, la notion d'apartheid israélien a été prononcée par plusieurs instances et organisations internationales israéliennes qui reconnaissent que l'Israël est un état en fait d'apartheid.
Voilà, donc ça c'était très important, oui. Je pense. Et avez-vous d'autres signalements à dire sur ce dossier qui soit aussi important?
Oui, important, mais curieux, c'est par rapport aux repères. Donc, en fait, les repères, ça présente, on va dire, de manière chiffrée, l'économie palestinienne, la population, etc. Et c'est vrai que c'est assez difficile, on va dire, de trouver des données exactes sur les territoires palestiniens, la Cisjordanie ou Gaza. Et du coup, ça m'a un peu donné du fil à retordre pour certains chiffres. Il faut se plonger même dans des articles, du coup, de l'ONU en anglais, etc. Mais parfois, il y a des chiffres qui sont pas cités, ou il y a certaines pages gouvernementales qui sont pas mises à jour. Donc, ça a été un peu
une difficulté.
Un peu une difficulté, oui. Ça m'a pris beaucoup de temps, cette partie.
Et vous avez fait aussi autre chose pour le CDTM, puisque vous avez participé aux permanences. Je rappelle que ce centre est ouvert tous les jours du lundi au jeudi et sur rendez-vous le vendredi. Et donc, vous avez été en contact avec toutes les tâches documentaires, non seulement celle de faire un dossier documentaire, mais aussi de s'occuper du prêt des ouvrages...
Oui, voilà, exactement.
Des supports audiovisuels.
Oui, ça a été une vraie découverte pour moi et ça m'a passionnée, parce que déjà, personnellement, j'aime beaucoup les bibliothèques. Et là, c'était la première fois du coup que j'étais un peu investie dedans, et de voir, on va dire, les coulisses de comment fonctionne un centre de documentation. Et oui, du coup, j'ai pu découvrir comment on fait pour emprunter un livre... comment entrer un livre dans la base de données, par exemple interne, découvrir c'est quoi une base de données interne, c'est quoi les conventions d'écriture pour...
Le thésaurus,
voilà,
par
le
exemple.
Thésaurus, comment faire un résumé concis, mais clair, comment, avec des mots-clés aussi, pour qu'on puisse retrouver facilement le
voilà, toutes ces l'ouvrage, tâches
toutes ces tâches documentaires, en fait, c'était une vraie découverte pour moi et c'était passionnant.
Et aussi, peut-être... la variété des supports, parce qu'il y a aussi des expositions.
Oui. Oui, exactement, il y a aussi des expositions, oui.
Et puis, il y a un autre travail qui est fait par le centre, c'est un travail d'animation, de réseau. Par exemple, le centre participe à la campagne alimentaire chaque année. Alors, vous avez participé à ces réunions-là ?
J'ai pas forcément participé, mais du coup, j'ai vu un peu le déroulement, comment chaque campagne ou chaque événement, conférence était préparé, on va dire, au niveau interne. Et voilà.
La préparation, oui, vis-à-vis du public.
Vis-à-vis du public, oui.
Comment on choisit le thème, oui. Comment on le met en place, comment on prend rendez-vous avec les intervenants, comment ça se passe après sur le terrain, comment on retient les salles. Il y a un tas de choses à apprendre, en fait. Et là, il y a eu justement le 24 mai un débat qui a été organisé, co-organisé par le CDTM et la coordination Stop Armes Nucléaires 34, qui a eu lieu au Salon du Belvédère et qui a réuni une soixantaine de personnes. Donc, il a fallu faire la pub pour... cette soirée aussi. Donc tout cela, ce sont des tâches que le centre fait régulièrement. Et malheureusement, avec la pandémie et les problèmes qu'on a rencontrés aussi, parce que nos locaux servent en ce moment à distribuer des repas solidaires, les cafés actualités qui ont lieu tous les mois, entre midi et 14 heures, n'ont pas pu se renouveler en mai et en juin, je ne sais pas si ce sera possible. Alors, il y a toujours ces aléas. Mais enfin, il faut rappeler que la base Ritimo, que vous pouvez consulter de chez vous sur ordinateur, est une base très riche, à la fois pour les relations Nord-Sud, pour tout ce qui concerne l'éducation à la solidarité internationale et tous les nouveaux problèmes qui peuvent se poser dans la solidarité internationale. C'est vraiment un travail d'équipe, puisqu'il y a plusieurs centres qui nourrissent cette base de données. Alors ça vous a donné envie aussi de vraiment de travailler dans une bibliothèque.
Ben oui, pourquoi pas, du coup.
Vraiment, voilà. Oui. Alors, vous avez pensé à une autre musique, de quoi s'agit-il ?
Du coup, j'ai choisi une autre musique du trio Joubran, qui s'appelle Massal, et je l'ai choisie parce que c'est, on va dire, une musique qui est assez répandue et connue. Donc, voilà.
On va l'écouter. Thank you.
Alors, ce stage au Centre Documentation Tiers Monde, c'est positif.
Ah bah vous avez très appris plein de choses. Oui. Oui, énormément de choses, ouais. Autant de, au niveau de la, on va dire, de tout ce qui tourne autour de la documentation, de la rigueur aussi qu'on doit y apporter. Et puis même, au-delà de ça, au niveau humain, les bénévoles, enfin rencontrer les personnes qui font les permanences, échanger, c'était très enrichissant.
Et maintenant, quels sont vos projets ?
Alors du coup, après le master, il y a 1000 possibilités de choses à faire. On va dire, j'hésite entre deux chemins, soit poursuivre dans la recherche, donc avec un doctorat, ou soit me lancer dans un métier dans le monde de la culture ou du monde social, socio-culturel, tout ça.
Et quel genre ?
Je ne sais pas, ça, il faut encore que je parle à moi-même et que je vois. Mais je ne sais pas, là encore, aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense qu'il me faudrait quelques mois de réflexion si je vais me lancer dans le monde du travail pour voir à peu près dans quoi je me lance en premier. Parce que je ne pense pas non plus que je vais...
Parce que ce master peut être suivi par donc un doctorat.
Oui, c'est ça. Ouais. Il y a un doctorat études culturelles aussi. Donc, aussi, ça m'intéresse parce que j'ai beaucoup aimé le master, la recherche scientifique, etc. Toujours apprendre, toujours se remettre en question, se décentrer, connaître des notions comme l'idéologie, l'hégémonie culturelle, la culture, les cultures, ça m'a passionnée et j'aimerais bien poursuivre dans ce domaine aussi.
Oui, alors c'est un vaste champ d'études.
Oui, très vaste, ouais, y a énormément à faire.
Et après, donc, après ce doctorat, ça donnerait quelles possibilités ?
Je ne sais pas.
Justement, le débouché,
c'est important
à savoir.
Ouais. Oui, c'est très important à savoir. Après, pour le moment, j'ai envie d'écouter, mes envies personnelles, un peu foncer comme ça, vers ce qui me plaît. Et c'est pour ça, du coup, que la recherche, pour le moment, c'est ce qui me plaît le plus entre ces deux choix. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Chloé, de nous
avoir
fait part.
Avec plaisir, merci pour votre invitation.
De tout ce travail et puis cette réflexion aussi. Bien sûr, je pense que vous êtes très motivée et vous allez continuer à vous occuper de la solidarité internationale.
Oui, aussi, oui. Voilà. À côté de ça, oui.
Et c'est important. C'est important de répandre aussi parmi le public cet engagement, de le faire connaître. Alors, je poursuis donc, Chloé, avec justement ce qui nous est proposé comme calendrier qui va suivre ce lundi. Du 1er au 4 juin va se passer la grande parade Métèque au parc de la Guirlande et dans les rues de Figueroles. C'est la 6e édition qu'organise l'Association pour le développement des priorités artistiques et sociales et des solidarités. C'est un festival artistique et citoyen qui questionne notre rapport à l'autre, à l'accueil, à l'étranger, au bien vivre ensemble dans la diversité. Et du 1er au 4, bon, ça va se dérouler, il y a plein de choses qui vont se passer. Mais le jour important, c'est aussi le samedi 4 juin, où il y aura un village associatif qui sera visitable de 11h à 19h. Et à 17h30 aura lieu ce jour-là la grande parade. Et puis, ça sera suivi d'un concert à partir de 19h. Donc, vous pouvez vous renseigner, bien sûr, à ADEMAS, ADEMA2S, vous cherchez sur Internet. Le jeudi 9 juin, il y a au cinéma Utopia à 20h un ciné-débat organisé par Alternativa et ANV Montpellier, le film L'été nucléaire de Gaël Lépingle de 2022. Sera présenté et l'intervenant pour le débat sera Simon Cossus, qui est directeur Énergie COP Occitanie et ambassadeur de Negawatt. Samedi 11 et dimanche 12 juin, Alternativa vous invite aussi à participer à Violon-Laval au Forum de la transition écologique. L'entrée est libre, donc, à Violon-Laval. Une réunion d'information aura lieu jeudi 2 juin à 17h30 à la salle Bernard Dimet à Violon-Laval. De même, Alternativa vous dit que le 3 juillet à 18h dans le quartier Agropolis aura lieu le festival Agropole IT dédié à l'alimentation durable et à la biodiversité. Et puis, il vous rappelle que du 8 au 10 juillet, à Lyon, aura lieu le festival Alternativa au parc Miribel, le plus grand festival sur le climat. Avec une cité des alternatives, 12 quartiers différents, des espaces enfants, des concerts. Alors vous pouvez bien sûr déjà retenir ces dates du 8 au 10 juillet à Lyon. Mais plus près de nous, le samedi 4 juin, Espoir pour un enfant organise à Poussan une journée à la grotte. Cette association également sera à Pignan le 11 juin dans le parc du château. Toutes ces braderies se déroulent de 9h à 18h. Et je rappelle que le dépôt de Espoir pour un enfant est à Saint-Jean-de-Vedas. Vous pouvez y rapporter tout ce qui peut être vendu, donc, le lundi, le mercredi, le jeudi et le samedi, de 14h à 16h30, 7 terres, rue Fond de l'Hôpital, à Saint-Jean-de-Védas. Alors, cette association fait appel en ce moment et lance une tombola pour soigner le petit Naouidi sur Hello Asso. L'association Espoir pour un enfant, je le rappelle, est fondée sur 3 principes, soigner, nourrir et éduquer. Elle accueille et soigne les enfants en France, intervient aussi à l'étranger lorsque c'est possible. 5 enfants attendent actuellement des familles d'accueil pour venir en France être soignés. Donc c'est très important de vous renseigner. Peut-être pouvez-vous être activement bénévole. Et Nawadi, qui a déjà subi une opération, doit en subir plusieurs autres, donc il faut qu'il reste au moins un an encore en France. C'est pour ça qu'a lieu cet appel de Hello Association. Enfin, je rappelle que le festival alimentaire va se dérouler le mardi 7 juin avec les écoliers qui ont participé cette année à ce festival qui était Patati Patata, le monde des tubercules et racines comestibles. Les enfants qui ont participé donc auront une fête de clôture de la campagne alimentaire avec présentation des travaux des enfants. Cela se passera le jeudi 9 à l'espace Martin Luther King avec un spectacle pour les enfants qui leur sera offert avec le conteur Le Fils du Soleil. Alors, il y a également des annonces d'Occitanie Coopération. Le mardi 7 juin, à la Halle Tropisme à Montpellier, a lieu la rencontre sur construire son budget et définir sa stratégie de recherche de financement. Il y a un apéro OC le même mardi à Montpellier, un temps de rencontre informel réservé aux adhérents. Et le mercredi 8 juin, à Altropisme toujours, rendez-vous individuel avec l'équipe du réseau Occitanie Coopération. Enfin, je rappelle que le vendredi 10 juin a lieu le 11e colloque Cher UNESCO sur le thème « Boissons, des aliments comme les autres ?» Cela a lieu à l'Institut agronomique de Place Pierre Viala. Il y aura un stand tenu par le Centre Documentation Tiers-Monde et la Maison des Tiers-Monde et de la Solidarité Internationale. Enfin, une journée de rencontres régionales des acteurs et actrices du réseau autour des festivals alimentaires, justement, et du Festival des Solidarités, aura lieu le jeudi 23 juin au lycée Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez, de 9h30 à 16h30. C'est la découverte des deux festivals, les films de la sélection qui seront choisis en 2022, un forum outils pédagogiques, un temps de jeu et des échanges de pratiques. Il faut s'inscrire avant le jeudi 16 juin. À bientôt, chers auditeurs.